Bonjour Madame Legault.
Bonjour Madame Stanquet.
Alors est-ce que vous trouvez que à la dernière minute on a donné les règles 3 jours avant la rentrée? Est-ce que ces règles-là, pour le moment, ont été suffisamment comprises par les directions et est-ce que ça a été facile d'attendre à la dernière minute pour mettre ces règles en place?
C'est pas du tout idéal d'avoir des règles comme ça qui nous arrivent à la dernière minute parce que on doit les mettre en place, on doit informer notre personnel et le rassurer. Mais oui, les règles, nous les comprenons parce que la pandémie, ce n'est pas nouveau. C'est notre deuxième rentrée scolaire en période pandémique et c'était quand même des règles que nous avions eu l'occasion de mettre en place au cours de la dernière année scolaire.
Alors, on va les rappeler parce que on a fait un reportage sur le terrain, mais il y a beaucoup de confusion. C'est normal parce que c'est des nouvelles règles, des anciennes. Alors, au niveau du masque, qu'en est-il au juste à Montréal, dans les écoles de Montréal, pour le primaire et pour le secondaire?
Bon, actuellement, à Montréal, le masque est requis en tout temps. Quand les élèves entrent dans l'école, ils doivent le porter et pour l'instant, sauf lors de canicule, ils doivent aussi le garder en classe, que ce soit au primaire ou au secondaire.
D'accord. Donc, ils arrivent, est-ce qu'on leur donne le masque ou c'est le masque de la maison?
C'est des masques qui sont fournis par l'école pour s'assurer de leur qualité et de leur efficacité. Donc, quand l'élève entre le matin, en fait, chaque école s'est dotée d'une façon de les distribuer. Dans certains cas, avec les plus grands, on va leur donner pour la semaine, avec les plus petits, davantage à la journée. On comprend que cette politique, cette consigne du masque débute avec nos petites de première année, donc dès 6 ans.
D'accord. Alors, il les retire, vous dites, quand il y a une canicule, comme là, on a eu une canicule au mois d'août, là, qui était assez incroyable, qui a duré assez longtemps. Quelles sont les consignes? Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que les enfants doivent faire et les enseignants quand il y a une canicule?
En fait, c'est remis au jugement de l'enseignant qui est avec les élèves. Certains établissements bénéficient d'une forme de climatisation qui fait que la canicule n'a pas d'impact. Mais la plupart de nos écoles primaires qui sont dotées d'une ventilation naturelle, sans climatisation, mais quand il fait chaud à l'extérieur, quand c'est en période de canicule, ça peut être très humide et très chaud à l'intérieur. Et à ce moment-là, c'est permis pour les élèves de retirer le masque lorsqu'ils travaillent en classe.
Donc, c'est permis du moment qu'il ne circule pas parce que le masque, c'est toujours dans les déplacements. Une bonne nouvelle au niveau des bulles, parce que ça, c'était compliqué l'année passée, les fameuses bulles, que ce soit à la cour de récréation ou ailleurs. Donc, il n'y a plus de bulles cette année.
Pour l'instant, ce qui a été annoncé par le ministère de l'Éducation, c'est qu'il n'y avait pas de bulles classe. Évidemment, rien n'est exclu parce qu'à mesure qu'on nous annonce ce qui est en place, on nous dit que la situation sanitaire pourrait amener des changements. Au primaire, où on est en titulariat, ben, on a quand même une certaine proximité avec le principe de la bulle classe. Par contre, quand les enfants sont dehors ou sur l'heure du dîner et qu'ils veulent rejoindre leurs amis, la souplesse de cette année va être favorable pour leurs relations sociales. Oui. Et probablement leur bien-être à l'école. De la même façon, cette contrainte étant tombée, il pourrait y avoir des activités parascolaires après l'école pour, par exemple, nos petits du primaire, sans être obligés de respecter cette bulle classe. Donc, ça permet qu'il y ait des activités sportives, récréatives, d'échecs ou autres, après l'école, entre des enfants de différents groupes classes. Donc, ça aussi, pour les enfants, c'est une excellente nouvelle. Au secondaire, bien évidemment, quand il y a possibilité d'éclater la bulle classe, là, on n'est pas en titulariat généralement, mais ça permet d'avoir accès à des options. On pense à un élève qui entre au secondaire et qui a le choix entre la musique et les arts plastiques, par exemple. Donc, on peut aller davantage vers ses intérêts. C'est bon pour la persévérance scolaire quand l'élève est intéressé au cours qu'il doit suivre.
Alors, donc, ça, c'est une très bonne nouvelle au niveau du parascolaire, au niveau du sport, parce que ils ont besoin de social. capables, ils ont besoin de s'épanouir. Donc là, pour le moment, ça reste au niveau des tests. Plusieurs ont dit qu'il va peut-être y avoir des tests dans les classes. Où ça en est rendu? Est-ce qu'il y aura des tests, soit au secondaire ou au primaire?
Ben, le ministre avait annoncé qu'il y aura un déploiement des tests rapides qui nous permettent d'intervenir plus vite et d'éviter que des élèves soient retournés inutilement à la maison. Mmh. Donc ça va se déployer d'abord dans la région de Montréal, ça avait été annoncé. Et ce que je comprends, c'est qu'on risque de le déployer dans certains quartiers, mmh, sous forme un petit peu de projet pilote pour voir comment ça s'implante, en vue de l'implanter progressivement dans tous les secteurs qui sont un petit peu plus touchés par la pandémie. Probablement dans les 9 zones où il y a le masque en classe, ce sera sans doute dans ces zones-là qu'on donnera accès à des tests rapides aux écoles.
Et les tests rapides, on nous dit que ça ne sera pas dans le nez, là, ça sera salivaire?
Moi, ce que j'ai entendu parler, c'est un test dans le nez, mais qui est beaucoup moins invasif, beaucoup plus facile à faire. Puis évidemment, il n'y aura aucun test qui sera fait sur un élève de moins de 14 ans sans que les parents aient consenti. Mm-hmm. Donc, tout ça va se faire avec l'information aux parents et le consentement des parents. C'est mm-hmm. très important.
Alors, on va y aller dans le cas positif. L'année passée, c'était un casse-tête pour les enseignants, pour les parents, pour tout le monde. Dans une classe, on va y aller avec le primaire. On sait qu'il y a un enfant qui est positif, on ne donne pas le nom bien évidemment, côté éthique, mais on ferme, on renvoie la fratrie, on envoie les autres camarades de classe. Cette année, on ne fera pas ça, selon le ministre, on ne fera pas ça, mais qu'est-ce qu'on va faire si jamais on sait qu'en début d'année, il y a un cas positif dans la classe de première année, deuxième année, dans n'importe quelle classe? Qu'est-ce qu'on va faire si ça se produit?
Alors là, on arrive dans la zone d'ombre.
Oui, c'est ça.
On y arrive directement parce que la Santé publique nationale a émis des règles, mais toute la gestion des contacts, c'est géré régionalement et chaque région peut se doter de façon de faire qui tienne compte de la situation pandémique du quartier, de l'école. Donc, ça pourrait arriver, même si c'est pas ça qui est annoncé, que dans certaines régions, sous la responsabilité de certaines santé régionales, on ferme des groupes. Actuellement, il y a au moins un groupe fermé au Québec. Donc, c'est pas juste théorique, ça se peut que ce soit pratique et que ça arrive réellement, mais c'est pas ça qui est souhaité. Mmh. Ce qui est souhaité, c'est que les élèves puissent demeurer en classe et que seule la personne qui est positive à la COVID puisse être retirée, que les autres élèves puissent poursuivre leur enseignement à l'école.
Et est-ce que c'est clair au niveau de la fratrie? Supposons qu'on a un élève, je prends toujours la quatrième année, et son frère est en première année, on renvoie également l'élève de première année ou...
c'est
pas clair.
C'est pas tout à fait clair, mais ce qu'on prétend à la lecture des dernières directives, c'est qu'on souhaitera que ce frère ou cette sœur-là soit testée, et si cette personne-là a un résultat négatif, elle pourrait être de retour à l'école. Bon. C'est ce qu'on comprend à ce jour dans les directives.
OK. Question, vraiment, est-ce que vous vous sentez sécuritaire? Est-ce que cette rentrée-là qui a été tardive au niveau des consignes à Montréal, vous sentez en sécurité? Parce qu'il y a un sondage qui est sorti du 19 au 20 août par l'INES qui disait que 56% des enfants de moins de 11 ans même étaient porteurs de la COVID. Donc ça, c'est quand même assez alarmant. Est-ce que vous vous sentez en sécurité en ce moment?
Oui, on se sent en sécurité dans les écoles. Et on a toute une année d'expérience, de mise en place de mesures, et on doit le dire, nos élèves sont exemplaires. Ils se sont adaptés aux différentes façons d'entrer en relation avec les autres. Ils se sont adaptés aux contraintes. Ils se sont adaptés au port du masque. Et notre personnel aussi, on a tout l'équipement de protection nécessaire. On a réorganisé nos salles de repos. On a réorganisé nos classes pour assurer le 2 mètres avec les enseignants. Donc, puis il y a tout l'entretien supplémentaire qui est toujours en place. Le questionnaire de santé de tous les membres du personnel qui mettent le pied dans l'école, il y a vraiment beaucoup de mesures. Donc oui, nos écoles sont sécuritaires, mais il y a quand même une réalité, c'est qu'à Montréal, on est moins avancé que le reste du Québec au niveau de la vaccination de nos jeunes. Et on comprend aussi qu'avec la présence du Delta actuellement, on a imposé le masque en classe. Donc ça a rassuré aussi certains membres du personnel et certains parents. Que le masque soit là jusqu'à ce qu'on mesure réellement ce qu'on a appelé l'impact de la rentrée.
Comment on explique qu'on est moins avancé à Montréal que les autres régions?
J'ai pas bien compris votre question.
Oui, comment on explique qu'on soit moins avancé à Montréal que dans les autres régions?
Il y a plusieurs raisons qui expliquent le retard. En partie, il y a eu des problèmes d'organisation de la vaccination scolaire en juin dernier. Ça a été long avant qu'on s'organise. Il y a eu toutes sortes de ratés, des délais trop courts pour que les écoles aient l'autorisation des parents. On n'a pas organisé la vaccination de nos 12 ans qui étaient au primaire dans plusieurs quartiers de Montréal. Il y avait une inégalité d'accès à la vaccination en juin. Et il y a toujours, en ce moment, une inégalité d'accès à la vaccination scolaire sur le territoire de Montréal.
Oh! Alors, ça va pas bien sur le territoire de Montréal.
En fait, chaque CIUS a sa propre stratégie de vaccination. Et si vous êtes un élève du primaire qui avait 12 ans et que vous résidez sur le territoire du CIUS de l'Ouest, on va vous offrir la vaccination. On va vous offrir la vaccination en même temps que votre école secondaire associée. Mm-hmm. Si vous habitez dans l'Est, dans le centre de Montréal, ben si vous fréquentez un centre d'éducation des adultes, un centre de formation professionnelle, ben on vous offrira pas la vaccination. On vous offrira pas la possibilité de vous joindre à une école secondaire quand on le fait dans l'Ouest. Fait qu'on comprend qu'on a beau être une île, mais à ce jour, la stratégie de vaccination est différente, donc l'accès à la vaccination scolaire est variable.
Bon, alors c'est ce qui explique ce retard, effectivement. Un grand merci d'avoir vraiment éclairé nos lumières, nos lanternes pour la rentrée scolaire, parce qu'il y a beaucoup de règles, même vous les apprenez, et je pense que tous les parents qui écoutent l'émission vont vraiment savoir ce qui se passe quand leur petit bout de chou sera rentré dans les cours, exactement grâce à vous, Kathleen Legault. Merci infiniment.
Merci.